Et voilà le soldat Baker qui prend le relais de Grumpf dans les interviews de ce vendredi 27 janvier 2017 à l'occasion du 44e Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême. Et pour cette quatrième rencontre, j'ai l'honneur d'être avec Carasquette sur le stand des éditions Soleil à l'occasion de la sortie de Satanie, donc durant l'automne dernier, avec un scénario Velman. Donc déjà bonjour Carasquette.
Bonjour.
Il semblerait que vous êtes deux normalement, Carasquette, mais qui se cache derrière Carasquette ?
Alors, oui, Carasquette, c'est donc un couple. C'est un couple de jeunes gens qui étaient amoureux, qui ont commencé à travailler ensemble et qui ont trouvé un pseudo pour se cacher derrière. Et en fait, on ne s'est pas caché très longtemps parce que assez vite, les gens ont su qu'on était deux. Et donc ces deux dessinateurs, Marie Pompuy et moi-même, Sébastien Cossé. excuse-moi.
Je meurs. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est la chaleur là, il y a beaucoup de monde là.
Alors,
l'origine de Carasquette.
L'origine du mot
oui.
ou l'origine du
mot.
L'origine du mot, c'est un bled en Bretagne qui est à côté de Brest. Il y a un Carasquette qui est un petit hameau très joli en Bretagne, mais c'est pas celui-là. C'est un lieu dit dans lequel il y a une ferme et une maison vers Plouzanet, et donc où a habité Marie quand elle était petite, et ses parents habitent encore là-bas. Et en fait, pour la petite histoire, quand ils étaient petits avec les frères et sœurs de Marie, quand ils faisaient des choses, par exemple, quand ils jouaient ensemble à faire du bricolage ou des trucs comme ça, ils aimaient bien signer Carasquette, ce qu'ils faisaient. Donc, il y avait des bouteilles de vin avec des étiquettes Carasquette, il y avait des trucs... Et donc, quand on a commencé à travailler ensemble, on avait trouvé que ce mot sonnait bien, et on s'était dit, en s'appelant Carasquette, on aura du mal à choper la grande tête, la grosse tête. Et voilà.
Bon. Bah du coup, vu que Marie n'est pas là, on va se concentrer un peu sur ton parcours. Comment es-tu tombé dans la bande dessinée ?
Tout petit. Déjà, je suis tombé dans le dessin depuis presque mes premiers souvenirs. D'ailleurs. Les photos de moi quand je suis petit, c'est par terre avec un crayon en train de dessiner. Et en fait, de façon logique, la bande dessinée est pour moi le médium dans lequel on peut tout faire. En parlant de dessin, ça aborde tous les sujets. Ça aborde à la fois la création d'univers, la narration, la création de personnages, le fait de faire vivre ces personnages, la mise en scène. En fait, c'est un espèce de discipline totale au niveau du dessin. Et donc,
avec une totale liberté et maîtrise, du coup.
En plus, avec assez peu... ça, je l'ai appris après, mais... assez peu d'interlocuteurs. En général, on a à convaincre un ou une ou deux personnes, et après, on a carte blanche pour faire son bouquin. Donc ça, c'est génial. Et voilà. Et en plus, on peut ou s'adresser à un public adulte, ou s'adresser à un public enfant. Donc on est quand même assez à la fois libre et avec une liberté créatrice qui peut avoir une vraie diffusion industrielle, quoi. Ce qu'il y a dans assez peu d'art, en fait, de pouvoir s'adresser, parce que c'est à la fois de l'artisanat à la maison et à la fois une industrie, parce que les livres, nous-mêmes, on découvre notre œuvre en livre qu'une fois que ça sort de l'impression, on se dit « Ah, j'ai fait ça !» Et donc, il y a un côté magique à tout ça.
Et as-tu un parcours vers classique de dessinateur ? Tu fais des écoles ou tu as appris sur le tard différentes techniques ?
Alors j'ai un parcours classique de dessin, mais c'était pas forcément un parcours qui me, sur le papier, m'amenait à faire spécifiquement de la bande dessinée. En fait, je voulais faire de la bande dessinée, mais je voulais pas qu'on m'apprenne à faire de la bande dessinée.
Bon, la différence
mon côté un petit peu. Et donc en fait, j'ai après le bac, j'ai Bon, comme j'étais chez les jésuites et qu'il n'y avait pas forcément de cursus, j'ai dû faire une mise à niveau. J'ai fait les ateliers de Sèvres. À l'époque, c'était deux classes. C'était hyper bon enfant, très familial. Là, maintenant, c'est devenu une grosse école. Et donc, j'ai préparé les concours. C'était une prépa pour préparer les concours d'école supérieure. Et j'ai fait ensuite les arts appliqués, Olivier de Serres. Où grâce à cette école d'ailleurs j'ai rencontré Marie qui a fait la même école donc ça faisait un BTS et par contre j'ai choisi le BTS plasticien de l'environnement architectural qui est en fait un BTS qui était, je sais pas comment il a évolué mais qui était un BTS très très ouvert dans lequel il y avait à la fois du modelage, du volume, des maquettes, du dessin de nu. Il y avait vraiment beaucoup de choses.
C'était assez varié.
C'était riche et varié. Moi, c'est ce qui me plaisait, c'était que c'était multi-support, multi-discipline. J'avais vraiment besoin de faire plein de choses. En plus, j'allais à tous les cours du soir. Je faisais de la taille de pierre. Je faisais tous les cours de croquis, de trucs que je pouvais. Et ça, j'ai fait ça intensivement pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai fait, comme j'avais comme envie de faire de la bande dessinée, j'ai assez vite fait des planches, essayé de soumettre à des avis critiques. Je me suis bien mangé des bonnes, des bonnes gaufres, mais c'est de toute façon cette bonne guerre.
C'était en solo déjà avec Marie ?
Non, c'était en solo. Moi, j'ai commencé vraiment tout seul avec un style plus réaliste. Et donc, ma première bande dessinée, c'était suite à un concours, en fait. J'ai gagné un truc, et puis après, en rebondissant, c'est devenu un album. Et puis, le fait de travailler avec Marie, ça a été de manière assez simple. C'est que moi, je bossais sur mes trucs, et elle arrivait derrière moi, elle me disait « Ah ouais, là, bof, ça pourrait être un peu mieux et tout. » Donc, je lui ai dit « Bon... » Écoute, si ça peut être mieux, tu m'aides, hein, et on va le faire ensemble. Et en plus, on était dans un studio de genre 15 mètres carrés, il n'y avait qu'un seul bureau, donc on était un petit peu obligés de se partager le truc. On s'est dit, bon, si on bossait sur les mêmes projets, ce serait quand même assez cool. Hein. Là aussi, c'était un concours de la collection BD Jazz qui se montait à l'époque. Et il fallait faire 15 petites planches le fait que ça existait ce concours que très peu de temps avant le rendu, donc on s'est dit bon on va faire ça rapidos. Et en fait on a pris un énorme plaisir à bosser ensemble et on a vu de manière pratique qu'on était complètement complémentaires dans le dessin. Et autant Marie a un style très graphique, très vivant, elle voit les choses plutôt en 2D, autant moi je vois les choses plutôt en perspective, en profondeur, donc en 3D, et j'ai un dessin quand même plus réaliste, plus académique.
Dû à ton parcours initial.
Ah, oui, aussi, à ma sensibilité aussi personnelle. Et donc on est... En mettant les deux en commun, on a créé cette espèce d'entité bizarre qui nous a amené vers plein de choses et d'expérimentation dans le dessin.
Donc vous avez réalisé donc notamment Miss Patouche, Donjon Crépuscule ou encore Jolie Ténèbres avec Velman. Et du coup, est né quasiment Voyage en Satanie en 2011. Alors comment est né ce projet? Je vais peut-être reformuler parce que là on est ensemble par rapport à Satanie chez Soleil qui est vraiment l'histoire complète. Oui. Mais au début, ce récit est... il n'a pas rencontré le succès escompté, en tout cas chez l'éditeur concurrent, que je vais citer, c'était Dargo, oui. En 2011. Comment ça s'est goupillé, voilà, exactement.
Alors,
surtout qu'en étant, on va dire, des personnes de renom, Carrasquette au dessin et Velman au scénario, comment ça n'a pas pu fonctionner en 2011?
Alors ça, les voies de l'édition sont impénétrables. Je pense que... Ouais. Attends, il y a une annonce, on va peut-être attendre. Satani est né d'une envie de collaboration. Comme on venait de finir Jolies Ténèbres avec Fabien, qui était quand même un projet un peu spécial parce que c'était pas vraiment Fabien au scénario de Jolies Ténèbres. C'était un projet de Marie qui, pour lequel Fabien est venu pour l'aider au début, juste aider Marie à accoucher du projet et à faire script docteur sur le projet. Et comme il s'est tellement impliqué, comme on avait tellement d'idées en commun, comme c'était des thématiques qui le touchaient vraiment particulièrement, en fait il est devenu de fait co-auteur et on a donc fini cette superbe expérience pour nous en tout cas éditorial. Et donc on a rebondi ensemble et il nous a dit bon ben voilà, moi j'ai envie de continuer à travailler avec vous, j'ai cette idée de une espèce de colonie de gens, j'aimerais bien expliquer le fait qu'il existe des démons sous terre. En fait la création des démons, ce serait lié à la théorie de l'évolution et des hommes de Néandertal qui sont allés sous terre, qui ont muté en fait sous terre en ayant des poils aux pattes, des sabots parce que c'était dur, parce qu'il faisait chaud, parce qu'ils avaient des cornes, parce qu'il fallait pas se cogner contre la roche.
Enfin, un mélange de Jules Verne et Darwin. Hein,
voilà, un truc à la Fabien, un peu fantasque et à la fois très, très intellectuel. Et donc, on a dit ben oui, super, et on a commencé à travailler ensemble. On a proposé le projet et en fait, chez Dargo, ils nous ont proposé... parce que ça se faisait aussi pas mal à l'époque, de diviser le projet en deux bouquins, une première partie, une deuxième partie, le tout faisant une boucle. Bon, ce qu'on avait aussi fait pour Miss Patouche d'ailleurs, ça avait très bien fonctionné. Et parce qu'à l'époque on faisait moins de grosses paginations, enfin on en fait de plus en plus maintenant, mais à l'époque on en faisait... C'était peut-être plus compliqué à vendre, enfin je sais pas. Bref, tout ça fait qu'on a fait cet album, qui était donc le début de l'aventure. Et en fait, ça a été une double chose qui se sont passées dans notre vie. C'est que, nous, on a eu un enfant avec Marie. On pouvait pas bosser directement sur la suite tout de suite. Et deux, il n'y a pas eu vraiment les ventes escomptées, sachant que peut-être aussi il y a eu un... Je ne sais pas comment vraiment l'expliquer, mais il y a eu un manque de visibilité sur cet album. C'est fou parce que les gens qui le lisaient nous disaient tous « Ah, on attend la suite, on adore » et tout ça. Et en même temps, beaucoup de gens ne savaient même pas que ça existait. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, donc ça s'est pas très bien vendu. Donc, et en plus, nous, on était dans les couches, machin, donc on était pas non plus super à fond pour se remettre à bosser sur un truc, sur un livre qui qui avait pas du tout de succès. Et, bon.
et du coup, comment ressusciter Satani auprès de Soleil dans la collection Métamorphose?
Alors, nous, on a enchaîné les bébés, on en a fait un deuxième.
Bah, productif, hein, le couple.
On est un couple très, très productif. Et en fait, Fabien, sur son blog, mettait souvent des notes. Et à un moment donné, il a écrit « Bon, ben voilà, il n'y aura jamais, je suis désolé de vous dire, mais il n'y aura jamais de suite à Satani. Bon, l'éditeur, il ne croit pas trop. » Bon. Et donc je lis ça, déjà il y avait plein de gens qui étaient un peu déconfits, je lis ça et je me dis non, c'est quand même pas possible. Et à côté je savais qu'il y avait Barbara et Clotilde qui voulaient qu'on travaille ensemble, elles étaient dégoûtées qu'on n'ait pas fait Jolies Ténèbres ensemble, parce que ça aurait été bien dans Métamorphose aussi, mais nous on savait même pas que ça existait à l'époque Métamorphose. Et on était très content de l'avoir fait avec Dupuis parce qu'ils ont
une collection autour de fantastique, l'onérisme, philosophie dans un univers.
Voilà. Et donc, que on en a parlé avec Barbara et Clotilde et j'aurais dit mais est-ce que ça vous dirait que l'album qu'on fasse ensemble ce soit satanique, mais ce soit un nouveau Satani en reprenant le tome 1, en refaisant un objet différent, parce que j'avais aussi des idées, le passage avec un fond noir, avec l'espace intericonique qui passe en noir pour rajouter le côté claustrophobique, et en plus je trouvais que ça allait très bien avec la collection Métamorphose. Enfin, il y avait plein de choses comme ça, et j'avais vraiment envie de retravailler aussi la couverture que je trouvais très ratée. Ce qui nous faisait un peu suer, parce qu'en général on fait vraiment super gaffe à nos albums, on avait eu un coup de mou, je pense que c'était peut-être parce qu'on avait la tête un peu ailleurs, et puis voilà, enfin bon, en tout cas on se rendait bien compte que c'était pas la couverture qui nous fallait. Et donc, je leur propose ça, et elles rebondissent tout de suite en disant « Mais oui, à fond, nous on a envie de faire ça, on a envie de bosser avec vous, avec Fabien, c'est super. » Et donc on a récupéré nos droits auprès de Dargo, qui ont été super sympas, et il n'y a eu aucun problème. Et on a pu travailler sur la suite et la fin pour créer un vrai objet plus qui correspondait peut-être plus à ce qu'on avait en tête au départ pour raconter cette histoire. Et voilà, donc on était super ravis de pouvoir aller au bout de cette aventure et avoir ce récit qui prenne la vraie forme que nous, en tant qu'auteurs, on avait envie qu'il prenne.
Je confirme le bel objet, en tout cas, surtout au niveau de la couverture, des couleurs, des détails. Et c'est ce qui m'a marqué dans cet ouvrage, c'est le détail, enfin la faune et flore souterraine. Je ne sais pas comment vous êtes inspiré, quelles sont vos références. Vous avez dû prendre plaisir dans les détails, dans la création de cet univers souterraine.
Alors nous, on prend toujours du plaisir, parce que sinon on fait pas les choses. Hein. Ça sert à rien de faire de la bande dessinée si c'est pas pour prendre du plaisir. Et d'autant plus qu'avec Fabien, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire que lui, il nous demande qu'est-ce que vous avez envie de dessiner. Mais il fait ça avec tous les dessinateurs. C'est aussi ce qui fait que tous les dessinateurs ont envie de bosser avec Fabien. Donc il est un peu dur à choper. Et parce que il est hyper intelligent pour savoir ce qui va faire que l'auteur graphique va s'éclater, quoi. Et donc le bouquin va être a priori bien, quoi. Et donc pour Satani, ça a été plein d'échanges, et nous on est parti comme d'habitude, dans plein de références dans tous les sens, de pas mal de trucs vu au microscope, vraiment au microscope électronique, aller vraiment dans du miniature, quand on regarde un insecte de super super près, on voit qu'un truc qui paraissait lisse l'est pas du tout, qu'il a plein de poils, qu'il a plein de... Et donc voilà, c'est tout de suite, pour moi il n'y a pas plus intéressant, il n'y a pas plus imaginatif, il n'y a pas plus fou que la nature elle-même. N'importe quel papillon vu de près, n'importe quel insecte ou plante ou champignon est 100 fois plus fou que ce qu'on peut imaginer. Donc il y avait ça. Moi je me suis pas mal éclaté en couleurs aussi à regarder les trucs de Moebius des années 70, très pop, ça partait dans tous les sens. On s'est donné à cœur joie pour... là encore, c'est toujours notre souci de ne pas se répéter, de ne pas refaire tout le temps la même chose, donc on passe d'une ambiance à l'autre avec des trucs qui partent dans des délires. Et ça, le fait de créer de toute pièce un univers, ça ouvre la porte à toutes les fenêtres, hein. C'est que nous, on est complètement libre, donc... voilà.
J'entrerai en détail dans la chronique de notre prochaine émission. Le temps nous est compté. J'ai deux petites questions à poser. Du coup, j'adorais ton artbook, votre artbook Paper Dolls, et j'étais étonné, enfin surpris par une préface d'un certain Rintaro, quand même, qui est un petit jeune homme du Japon. Il a travaillé auprès d'un certain Osamu Tezuka, hein, auprès d'Astro, le roi Léo, mais qui a réalisé pas mal d'animations, hein, notamment de Metropolis, les ailes de Néami, si je ne me trompe pas. Bref, comment Rintaro est arrivé dans votre ouvrage?
et aussi le très beau Ah mais tu
c'est pas Isaac Donnéamis, pardon, c'est Armageddon à qui je pensais.
Armageddon. Mais le long métrage qu'il a fait aussi avec Otomo, d'après le style de Tezuka, c'est Metropolis.
Metropolis, ouais. Mm-hmm.
C'est vrai. Ouais. Ça c'était vraiment magnifique.
Est-ce que non. C'est lors de sa venue à Angoulême? Rintaro est venu à Angoulême, oui, effectivement.
En fait, c'est dû à une amie commune qui s'appelle Shoko Takahashi, qui est traductrice et qui fait beaucoup de traductions de réalisateurs japonais, de mangaka, et qui se trouve être une amie d'enfance de Marie, parce que quand Marie est arrivée à Paris, elles étaient dans le même foyer. Et un jour, Shoko nous appelle en nous disant « Mais c'est incroyable, devinez qui vient de me demander de ramener au Japon un exemplaire de Jolies Ténèbres, parce qu'il l'avait vu et qu'il a envie que je lui ramène. » Et ben non, c'est pas. Ben c'est Rintaro et Otomo. Ok.
Petit nom, oui.
Et donc, les deux, nous, on envoie non seulement des exemplaires de Jolies Ténèbres, mais en plus on leur fait des dédicaces, et ben en retour ils nous envoient des dessins dédicacés aussi, donc incroyable. Et un jour Rintaro est sur Paris et donc notre copine Shoko nous dit mais ça vous dirait de le rencontrer? On dit bah oui, bien sûr. Et donc il est venu à l'atelier et on a discuté ensemble et on lui a demandé, comme on savait qu'on allait travailler sur ce bouquin, on lui a demandé humblement s'il accepterait de faire la préface, et lui il est tellement gentil, il est tellement simple, tellement modeste, tellement tout, qu'il a super gentiment accepté, et voilà. Et après, par respect par rapport à ce qu'il avait fait, on a décidé de faire deux préfaces, qu'on la garde en japonais, telle que lui l'avait fait, et la traduction.
Que de frissons là, rien que d'en parler. Allez, dernière question. Quels sont vos projets à venir?
Alors, nos projets en ce moment, on fait moins de bandes dessinées. On fait plus des livres un peu plus courts, un peu plus. Enfin, en tout cas, pour nous, plus simple à faire, parce que la bande dessinée, c'est vraiment long, c'est vraiment.
Concilié avec la vie de famille, j'imagine.
En plus, voilà. Et comme on a des petits, on lit beaucoup de livres pour enfants, tous les soirs, au moins 4 ou 5. Et on s'est dit que ce serait super de bosser dans ce domaine-là, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, enfin on a souvent associé notre style à un style enfantin, et en même temps on ne l'avait jamais exploité de cette façon-là, c'est-à-dire de manière vraiment assumée pour les enfants. Donc on a commencé à faire les tchouks avec Rue de Sèvres, on a plusieurs tomes avec Benjamin Richard. Et donc là on est en train de travailler sur plusieurs projets, voilà. Des choses qu'on écrit nous-mêmes, des choses avec des auteurs, plusieurs éditeurs différents, enfin on s'éclate. Puis à côté on a aussi un peu un pied dans l'animation, donc ça c'est des projets qui sont toujours très hypothétiques.
Merci beaucoup Kersouet pour ce petit moment. Un petit merci aussi à Sabrina et Sven qui ont permis cette interview. Donc on est au deuxième jour, il te reste encore deux jours. J'espère que tu as un peu d'énergie.
Demain soir, moi je pars.
Oh, t'es un malin, tu pars demain soir.
Ben merci pour tout et puis bon courage pour la suite.
Merci, j'adore ton t-shirt.
Merci, toi aussi.